première.
Par oui dire ?
Oui.
Oui, oui.
Pascal Tison.
A parte il fatto che ci vedere quando scadono questi portodarmi, comunque...
Tra le strade saracene, mille chiese ad altri tempi, ci si incontra tanta gente, non da vivere per niente.
Dis-moi.
C'est un art.
Par où dire ? Que se passe-t-il lorsque nous mourons ? Que devient notre conscience ? Est-ce qu'elle survit à la mort cérébrale ? Ce sont ces questions vertigineuses qui animent Stéphane Alix au moment du décès de son frère aîné. Les recherches en médecine ou en neurosciences, ainsi que les innombrables phénomènes inexpliqués autour de la mort, comme les expériences de mort imminente, suggèrent que notre conscience possède une dimension autonome, ce que certains appellent d'ailleurs la conscience extra-neuronale, comme le médecin Jean-Jacques Charbonnier. Pour tenter d'approcher ce mystère, ce qui reste un mystère, Stéphane Alix décide de faire lui-même l'expérience de cette dimension à travers des voies alternatives, bien sûr, des pratiques spirituelles millénaires comme le chamanisme. Stéphane Alix se forge ainsi une intime conviction révélée dans son livre dernier « La mort n'existe pas ». C'est une proposition d'Axel Thierry.
Nous ne nous limitons pas au corps physique dont nous avons l'habitude. Nous ne sommes pas que ce corps, nous sommes autre chose. C'est quelque chose qui est avancé de manière plus ou moins métaphorique par différentes grandes traditions spirituelles, mais c'est aujourd'hui quelque chose qui peut être vraiment mis en évidence avec des outils scientifiques, avec la neuroscience, avec la médecine, la psychologie. L'être humain ne se limite pas à ce que l'on a l'habitude de côtoyer au quotidien. Je suis arrivé à cette conclusion effectivement après un très 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 long travail d'enquête, parce que la grande question de la conscience est un mystère pour les scientifiques aujourd'hui. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas comment la conscience émerge, on ne sait pas d'où elle vient. On vit dans un monde qui suppose que la conscience est liée au cerveau et qu'elle y trouve sa source, parce que quand on modifie l'activité cérébrale, on modifie nos états de conscience. Quand on observe l'activité du cerveau en fonction de l'état de conscience dans lequel on est, quand on est en sommeil, quand on est à l'état de veille ou quand on est dans le coma, on voit des schémas d'activité cérébrale qui sont très très différents. Donc on se dit, bon, bah, a priori, ça paraîtrait logique que ces schémas différents créent les états de conscience différents. Mais ça, c'est une posture philosophique qui n'a jamais été démontrée et qui est même aujourd'hui de plus en plus contestée par des neuroscientifiques extrêmement sérieux qui dirigent des grands laboratoires à travers le monde. La conscience est un mystère. Et moi, je me suis intéressé plus spécifiquement à ces différents états de conscience, à ces différentes expériences de conscience qui seraient impossibles dans le modèle qui est le nôtre, un modèle où le cerveau fabriquerait notre conscience. Je prends pour exemple notamment les expériences de mort imminente, qui sont ces expériences qui sont vécues depuis plus de 50 ans par des gens qu'on ranime, qu'on ramène d'un arrêt cardiaque. Il y a les techniques de réanimation qui permettent de ramener quelqu'un qui a vécu un arrêt cardiaque sont développées depuis une cinquantaine d'années. Avant, il y avait des gens qui vivaient des expériences psychospirituelles de la même nature que les expériences de mort imminente, mais le développement de ces techniques médicales a vraiment rendu le phénomène extrêmement saillant, extrêmement visible. Qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui, à un moment où leur cerveau était non fonctionnel, parce qu'au bout d'un arrêt cardiaque, au bout de 20 secondes, le cerveau n'est plus irrigué, ne fonctionne plus. Plutôt que d'avoir été complètement inconscient, ils disent « non, j'étais pas du tout inconscient, j'étais réveillé, je regardais la scène, je voyais ce qui se passait, j'étais un peu au-dessus, et puis j'ai eu une expérience avec ce tunnel, cette lumière, j'ai rencontré des figures spirituelles, des proches décédés, voilà un peu les grandes figures archétypales de ce type d'expérience. » Et ce qui est intéressant, c'est que moi, je les ai abordés vraiment en tant que journaliste. Qu'est-ce que je peux vérifier? Est-ce qu'il ne s'agit pas simplement d'un rêve? Est-ce qu'il ne s'agit pas de notre imaginaire, d'une forme de reconstruction? C'est vrai qu'à un moment dramatique pour le corps où la personne est en danger, on peut supposer que peut-être le cerveau fabrique des images pour nous rassurer. Donc je me suis intéressé notamment aux éléments factuels que les témoins rapportaient. Quand ils disaient avoir été à l'extérieur de leur corps, avoir observé le bloc opératoire dans lequel ils sont, avoir observé la scène de l'accident dans lequel ils étaient impliqués, est-ce qu'ils rapportaient des détails précis? Est-ce que ces détails pouvaient être vérifiés? Et quand j'ai fait ce travail d'enquête, c'est ce qui se présente. C'est-à-dire des gens, quand ils disent être sortis de leur corps, ont observé des choses qui étaient inattendues, qui étaient improbables, qui n'étaient possiblement imaginaire. Ici, par exemple, là, je vous demande de me décrire une scène de réanimation à l'hôpital. Vous allez me décrire quelque chose que vous avez vu, dont vous avez un souvenir inconscient quand vous avez regardé la série Urgence ou des films de cet ordre. Mais à aucun moment, vous allez être capable de me donner une information extrêmement précise et avérée qui se sera passée réellement si vous aviez été effectivement réanimé dans un bloc opératoire. Par exemple, le t-shirt que portait le chirurgien, ou alors que vous ne l'avez pas vu parce que vous êtes entré dans le bloc, vous étiez déjà endormi, ou alors une procédure un peu inattendue qui s'est passée dans le bloc, ou alors un détail dans un accident de voiture dans lequel vous avez été impliqué mais que vous n'avez pas vu parce que vous êtes déjà dans le coma au moment où ça se produit. Voilà, tous ces petits détails, quand on fait l'effort, comme je l'ai fait en tant que journaliste, de les vérifier, on s'aperçoit qu'on a des témoignages, on dispose de témoignages sérieux, solides, corroborés, qui attestent que ces gens-là ont été conscients et ont été capables d'observer quelque chose alors que leur cerveau ne fonctionnait pas.
Vous avez rencontré des scientifiques, Stephen Lawrence, Pim van Lommel. Il y a cette question aussi du fait que la conscience persiste après la mort. Et puis, vous faites le lien avec la physique quantique et le caractère non local aussi de la conscience, Stéphane Alix.
Effectivement, dans le livre, je suis allé questionner des chercheurs comme votre compatriote Stephen Lawrence, qui dirige le Coma Science Group à Liège, qui est un des neuroscientifiques les plus éminents au monde et qui travaille, un des rares justement à travailler sur les expériences de mort imminente pour essayer de comprendre comment elles adviennent. Sauf que Stephen, lui, il a un présupposé de base qui est de dire qu'a priori c'est le cerveau qui les a fabriquées. Il est neuroscientifique, donc c'est son rôle d'avoir cette hypothèse-là et d'essayer de la valider ou de l'invalider. Des chercheurs comme Pim van Lommel, eux, ont sauté le pas. C'est-à-dire que Pim, lui, il est cardiologue, mais il s'est intéressé aux expériences de mort imminente il y a de cela des décennies, en constatant justement qu'elles avaient des caractéristiques qui étaient inexplicables, que le cerveau fonctionne ou que le cerveau ne fonctionne pas. Là, on est en train de discuter dans une pièce, je suis incapable de voir ce qui se passe dans la pièce d'à côté. Mais si j'avais une expérience de mort imminente maintenant, si je perdais connaissance et que je sortais de mon corps et que je me promenais dans l'immeuble, je serais capable de vous dire, tiens, dans la salle d'à côté, il y a une personne qui porte telle coiffure, qui est habillée comme ça, etc., etc. Ça, que le cerveau marche bien, marche pas bien, marche un peu, marche à 20% seulement, c'est pas possible. Donc cette perception extrasensorielle qui est liée à une sortie hors du corps, elle atteste que les gens ont une dimension de leur conscience qui n'est pas bloquée dans le temps, qui n'est pas bloquée dans l'espace surtout. Et ça, c'est ce qui ressort vraiment de l'ensemble des expériences de mort imminente et des récits qui nous sont rapportés, mais c'est ce qui ressort aussi d'autres types de phénomènes comme les perceptions extrasensorielles, comme l'intuition, comme la voyance, comme tous ces sujets qui montrent que notre conscience, à un certain niveau, quand elle n'est pas complètement inhibée par notre activité cérébrale qui fait de nous des êtres fonctionnels dans le temps et dans l'espace, dans le monde dans lequel nous vivons, quand on revient à ces dimensions beaucoup plus profondes de la conscience, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas contraintes par aucune distance et par aucune temporalité. Donc j'ai repris effectivement dans le livre un terme qui est utilisé en physique quantique pour qualifier le comportement des constituants ultimes de la matière, qui, bien qu'ils fabriquent la matière, bien qu'ils soient les constituants de cette matière, la matière étant, elle, bloquée dans le temps et dans l'espace, bah, les constituants de cette matière ne sont pas, eux, bloqués dans le temps et dans l'espace. Et on parle de non-localité, c'est-à-dire on parle de non-localisation de ces constituants. Je ne vais pas entrer dans les détails trop techniques parce que c'est barbant. Et puis, je me rappelle des réflexions d'un physicien quantique qui me disait « Si vous croyez avoir compris la physique quantique, c'est que vous n'avez rien compris. » Donc, je vais rester très modeste par rapport à ça. Mais cette phénoménologie de la conscience, elle est mise en évidence par des outils scientifiques. Elle est avérée. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en nous qui peut voir en dehors du temps, qui peut connaître l'avenir, qui peut aller dans l'avenir. Il y a une dimension de notre conscience qui peut se déplacer n'importe où sur la planète sans que notre corps soit affecté. Et ça n'est pas expérimentable au quotidien pour vous et pour moi, parce que nous sommes bloqués dans un corps avec un cerveau qui, depuis sa conception, depuis le moment de notre naissance, a développé une forme d'interaction avec le monde qui, d'une certaine manière, a écrasé toute cette dimension fondamentale de la conscience. Je prends souvent l'exemple de la conscience qui serait comme une luciole, vous savez, les vers luisants que l'on voit voler au printemps. Si vous mettez un phare de camion éclairé devant la luciole disparaît complètement. Pour moi, l'activité de notre cerveau a ce rôle qu'a le phare d'un camion. C'est-à-dire que notre activité cérébrale, elle est permanente, elle est en permanence dans une espèce de travail de gestion des données qui lui parviennent par nos cinq sens pour essayer d'analyser, d'anticiper les situations. Notre cerveau, il est fait pour ça, en fait. Notre cerveau, il est fait pour faire de nous des êtres humains adaptés, capables de réagir aux circonstances qui vont se produire dans notre environnement. Donc, pour ce faire, notre cerveau a appris, il a acquis des connaissances, et à partir de ces connaissances et de cette expérience, il anticipe ce qui va se passer. Mais ce processus permanent, quand on observe l'activité cérébrale du cerveau, il fait ça en permanence. D'anticipation et de remémoration fait que toutes les dimensions beaucoup plus subtiles de notre conscience, qui sont celles avec lesquelles on est arrivé sur cette Terre, ont été complètement écrasées, complètement inhibées. Et ce qui est drôle, c'est que d'ailleurs les moments où le cerveau fonctionne moins bien, une expérience de mort imminente en étant l'exemple le plus frappant, parce que là le cerveau ne fonctionne plus, ou éventuellement dans un cas de réanimation on peut rétablir parfois un peu de pression sanguine, donc on va rétablir 20% d'activité cérébrale, et encore c'est pas de l'activité cérébrale, c'est 20% de pression dans le cerveau. Donc dans des moments où le cerveau fonctionne moins bien, voire pas du tout, contrairement à ce qu'on pense dans nos modèles, on redevient plus conscient. C'est comme si on éteignait un cerveau qui sert de filtrage, qui sert d'outil d'écrasement en fait de ces dimensions spirituelles. Et pendant les expériences de mort imminente où le cerveau ne fonctionne plus, pendant une méditation par exemple, la méditation, on observe sur le cerveau des effets inhibiteurs d'une activité dans un mode qui s'appelle le réseau mode par défaut, qui est un réseau global du cerveau qui sous-tend notre personnalité, notre ego d'une certaine manière. Bah, la méditation agit sur ce réseau et diminue son activité. Avec les substances psychédéliques utilisées par des chamans, notamment depuis des millénaires, on observe également que ces substances qui font l'objet de beaucoup de recherches actuellement ont un rôle inhibiteur de ce réseau mode par défaut. Donc, par tous les angles que je présente dans le livre, on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on baisse ou qu'on stoppe l'activité de notre cerveau, plutôt que d'être inconscient, c'est exactement l'inverse qui se présente. On se réveille. On se réveille, on réaccède à une dimension beaucoup plus vaste de notre conscience qui est, comme vous l'avez souligné, non locale, c'est-à-dire qu'elle est capable d'être partout, de capter de l'information partout, que ce soit ici dans cette pièce ou à l'autre bout du monde, que ce soit maintenant dans le présent ou que ce soit dans le passé ou dans le futur. Ça, c'est pas une... Je réinsiste là-dessus parce que ce n'est pas l'objet d'une croyance que je vous partage aujourd'hui. C'est vraiment, et c'est ça qui m'a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, à la fois d'enquête mais aussi d'expérimentation personnelle. C'est un fait avéré aujourd'hui avec les outils de la science dont nous disposons.
On suit au cours du livre tout toutes ces rencontres où justement on sent votre exigence de journaliste d'aller le plus loin possible aussi, lié à cette quête. Et puis à un moment, vous plongez au cœur de la forêt. Vous dites, il ne faut pas toujours avoir tout en main pour se lancer. Et donc vous vous lancez au cœur de cette forêt, vous avez des descriptions merveilleuses de la forêt. Alors tout d'abord, comment vous avez vécu la rencontre avec la forêt et qu'est-ce que vous êtes allé chercher là ?
En fait, je suis allé chercher de l'expérience. C'est-à-dire que mon premier voyage en Amazonie auprès de chamans remonte à 2006. Donc il y a de cela pas mal d'années maintenant. À ce moment-là, depuis quelques années déjà, j'avais commencé mon enquête. Donc j'avais commencé à mettre en évidence le fait que notre conscience ne se réduit pas à notre activité cérébrale, que quand notre cerveau fonctionne moins bien, on réaccède à une dimension subtile de la réalité, qui peut être qualifiée de spirituelle, dans lequel peuvent vivre des êtres de nature spirituelle, des esprits, toute une dimension dont je commençais à percevoir la réalité objective à travers des outils scientifiques, mais qui me donnait envie d'en faire l'expérience moi-même. Je me suis dit, mais si ça existe réellement, je veux les voir. Et en l'occurrence, mon frère. Si mon frère est encore vivant quelque part dans ce monde spirituel, s'il est devenu un esprit et qu'on peut le rencontrer, je veux faire cette expérience-là. Et ça, ça a coïncidé avec un moment où je me suis tourné vers le chamanisme, un peu par accident, par un ami qui m'a parlé du chamanisme amazonien notamment, qui utilise une substance qui s'appelle l'ayahuasca, qui est une substance psychoactive qui induit des états de conscience très très importants. Ce qui est intéressant, c'est que l'ayahuasca, qui contient de la DMT et d'autres psychédéliques, sont étudiés par des scientifiques depuis pas mal de temps maintenant et éveillent énormément la curiosité des chercheurs, que ce soit les anthropologues ou les psychiatres ou les neuroscientifiques. Donc je trouvais à la fois une réassurance dans le fait que ces substances n'étaient pas des drogues comme elles sont classées en Occident, comme la cocaïne ou l'héroïne, mais au contraire des outils d'exploration de la psyché utilisés depuis des millénaires par des traditions à travers le monde. Et j'avais aussi cette invitation, d'une certaine manière, qui m'avait été faite par des chamans qui me disaient « Bah oui, c'est simple, en fait, d'aller dans le monde des esprits. Il suffit de venir, de participer à des cérémonies et vous allez voir le monde des morts. » Donc je suis parti un peu naïvement là-bas en me disant « Bah, c'est peut-être intriguant, peut-être un petit peu angoissant, mais je suis journaliste, je vais faire l'expérience moi-même, je jugerai sur pièce. » Et ça a été vraiment la motivation de mon premier voyage là-bas. Et puis, s'en est suivi de nombreux autres voyages, de nombreuses expériences que je rapporte effectivement dans le livre. Ça n'a pas été aussi simple que je l'imaginais. C'est un long apprentissage. Mais après tout, si je voulais apprendre le mandarin, je serais un peu dans l'illusion d'imaginer qu'en un week-end, je puisse parler chinois couramment. Bah, le chamanisme, c'est un peu pareil. Il m'a fallu des années et des années de pratique, de voyage, pour commencer à maîtriser un petit peu la formidable puissance de ces états modifiés de conscience et voir apparaître une dimension subtile de la réalité au cours et au fur et à mesure de mes voyages. Mais mon travail, en fait, vous l'avez souligné, il est je reste journaliste. Je reste quelqu'un qui remet en question en permanence ce qui m'est dit et même ce que j'expérimente. J'ai besoin de preuves, j'ai besoin de démonstrations objectives. Et donc ce livre-là, il est marqué par ce désir constant qui m'a animé pendant plus de 20 ans de vivre des expériences, de rencontrer des chercheurs, de rencontrer des témoins et de les mettre à l'épreuve des faits en permanence. Donc le travail chamanique que j'ai fait, qui s'est étalé sur 15 années, a été en permanence réexaminé au regard des connaissances scientifiques que nous avons sur l'action de ces substances sur le cerveau, au regard des expériences phénoménologiquement similaires, au regard de tout ce que la science est capable d'apporter aujourd'hui. Et ce livre vraiment témoigne de ma méthode, qui est une méthode de « je ne m'interdis aucune question, je ne m'interdis aucune expérience, je ne m'interdis rien ». Mais j'applique sur toutes les personnes que je rencontre et toutes les expériences que je fais la même rigueur d'observation et d'analyse. Et ce long travail m'a permis, au final, et le livre se conclut là-dessus, de vivre moi-même des expériences où je suis allé de l'autre côté et j'ai expérimenté ce qui se passe au moment de la mort à plusieurs reprises, en étant en capacité d'en ramener des informations que je partage effectivement dans le livre.
Merci Stéphane Alix. Mais comment ça s'est passé? Vous décrivez une vibration extraordinaire, l'impression d'être dans un autre monde, des expériences spirituelles aussi d'une très grande beauté. Est-ce que vous pourriez les partager aussi ici?
Ça va être dur en quelques minutes de décrire tout ça. Ça m'a pris plus d'un an de décrire ce livre. Mais en quelques mots, ce qu'il faut comprendre, et ce qui pour moi a été vraiment décisif, c'est de... Pourquoi est-ce que nous croyons ce que nous croyons? Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à imaginer que nous puissions être autre chose que le visage que nous voyons dans la glace chaque matin? Pourquoi est-ce que ce sentiment d'existence, d'identité, de s'appeler Stéphane, est si puissamment ancré en nous? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a rien d'autre et je ne suis que ce corps, je ne suis que ce visage que je vois dans la glace? Ou est-ce que c'est parce que il y a d'autres mécanismes qui entrent en œuvre? Et ce que je mets en évidence dans le livre, c'est cette deuxième explication. C'est-à-dire que notre corps, notre cerveau participe, comme je l'expliquais plus tôt, de la construction d'un personnage, de la construction d'une identité, de la construction d'un masque. Freud déjà avait eu l'intuition de dimensions inconscientes de notre esprit, Jung a emboîté le pas, et aujourd'hui la psychologie atteste sans l'ombre d'un doute de l'existence de dimensions cachées de notre personnalité, de dimensions inconscientes. Mais il y a certains psychologues, je pense notamment au psychiatre américain Stanislav Grof, qui lui va plus loin en disant que ces dimensions inconscientes ne sont plus seulement personnelles, elles sont, il a employé le mot de transpersonnelles. C'est-à-dire que plus on se désidentifie de ce masque que nous portons en permanence, plus on découvre des dimensions extrêmement vastes de notre conscience, des dimensions où même notre individu à un moment est plus si étanche que ça. Et donc, dans le livre, je me suis vraiment attaché à détailler point par point comment ce masque se construit. Ce masque n'est pas sans valeur. Je suis très haute, traverser l'existence dans ce corps, avec ce visage, avec ce nom, avec cette identité. Ça me sert à vivre, ça me sert à fonctionner dans ce monde de matière. Mais j'ai compris aujourd'hui que ce masque était mortel, que ce masque s'est fabriqué au moment de la conception dans le ventre de ma mère et puis s'est structuré de façon beaucoup plus écrasante encore après ma naissance et dans les premières années de vie. Et puis quand je vais mourir, ce masque-là va s'étioler, va disparaître, va se fragiliser et va réapparaître quelque chose qui a été recouvert par ce masque, quelque chose qui était cette espèce d'élan de vie. Je vais parler d'une âme parce que pour moi l'âme est une réalité. Cette âme qui, à un moment, est entrée et a fabriqué un corps, qui est celui de Stéphane, elle existait avant que j'existe. Et elle existera après que je sois mort. Parce qu'elle existe en dehors du temps et de l'espace. Et donc, qui sommes-nous quand nous ne sommes pas ce masque? Ça, c'est la grande question qu'on se pose tous. Moi, je me suis limité, et ça m'a demandé quand même un travail assez considérable, à mettre en évidence le fait que ce masque est une forme d'illusion. Enfin, croire que nous ne sommes que ce masque est une forme d'illusion. Nous sommes beaucoup plus que ça. Et j'ai argumenté, développé et mis en évidence cette réalité. Après, qu'est-ce qui se passe quand ce masque est mort? Qu'est-ce qui se passe dans le voyage de l'âme qui suit la mort? Ça, c'est presque un autre livre, c'est presque la suite de l'enquête. Mais déjà, pour moi, ce livre était important pour objectiver la réalité de notre âme. Et c'est déjà, pour moi, quelque chose d'absolument formidable de pouvoir être arrivé à utiliser les outils qui sont les outils de la rationalité que j'utilise depuis mon début de carrière journalistique pour mettre en évidence ce fait. Nous avons une âme, la science permet de le démontrer. Et je sais que certains auditeurs vont se dire, oui, mais si c'était vrai, ça se saurait, on aurait des preuves, etc. Mais en fait, cette attitude-là, c'était la mienne aussi il y a quelques années de ça. Et ça dénote en fait d'une forme de méconnaissance de ce qu'est réellement le chemin scientifique. La science, ça n'est pas une citadelle où tout le monde est d'accord. On l'a bien vu au moment de la crise sanitaire d'ailleurs. Vous avez des grands experts qui vont vous dire des choses très différentes en fonction des mêmes faits. Et ce que j'ai découvert en fait en faisant mon travail d'enquête, c'est qu'il y a aujourd'hui au sein de la communauté scientifique, dans différentes disciplines, en neurosciences, en psychologie ou autres, des gens qui disent on a suffisamment d'éléments aujourd'hui pour attester que l'âme est une réalité, pour attester que l'être humain est un être spirituel qui fait une expérience humaine. Et puis vous avez d'autres scientifiques qui vous disent non, je ne suis pas d'accord, moi je pense qu'il n'y a pas assez de faits. Mais ce n'est pas que d'un côté il y a ce qui est raison et de l'autre côté il y a ce qui est tort. Le monde scientifique est fait de ça, est fait d'avis extrêmement divergents à partir des mêmes faits. Et ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est montrer combien une partie de la communauté scientifique est convaincue au vu des faits et des expériences qui ont été menées sur ces faits, que la réalité de l'âme est attestée, en fait.
Vous parlez aussi d'un réservoir gigantesque de connaissances, vous parlez de l'énergie aussi avec des petits points lumineux, avec tout qui se met à vibrer, vous percevez le monde d'une autre manière, il y a cette unité du vivant aussi.
Et vous savez, regardez, qu'est-ce que nos yeux captent du spectre lumineux? Ils captent une extrême petite bande de fréquences. Tout ce qui est ultraviolet, tout ce qui est infrarouge, on ne le voit pas. Pareil pour le son. Nos oreilles ne captent qu'une petite partie des sons qui sont émis autour de nous. Tous les infrasons, les ultrasons, on ne les capte pas. Il en va de même pour l'ensemble de la réalité. Nos yeux, nos sens habituels ne captent qu'une infime partie de cette réalité. Donc dès lors que l'on réaccède à cette dimension fondamentale de la conscience, on voit apparaître ces dimensions d'ordinaire invisibles de la réalité. Ces dimensions où vivent des êtres spirituels, ces dimensions de nature beaucoup plus subtiles. Donc les décrire, c'est extrêmement compliqué parce qu'on n'a jamais appris à les voir. Donc ce que l'on voit, d'une certaine manière, est impossible à traiter par notre cerveau. C'est comme si vous deviez décrire, en étant aveugle, ce que c'est qu'un lever de soleil. C'est impossible. Si en étant aveugle, vous vivez des expériences à travers des techniques chamaniques ou des techniques ou des sorties hors du corps ou des états méditatifs qui vous permettent de voir la lumière et de voir un coucher de soleil, il va vous falloir des années avant de commencer à trouver des mots dans votre registre d'aveugle pour décrire quelque chose qui appartient à une expérience qui est complètement inattendue pour vous. Et c'est ce que j'ai expérimenté moi-même au fil des années, c'est que je pénétrais dans un monde que je ne peux pas décrire. Un monde où les dimensions n'existent plus, où le temps n'existe plus, où la localisation n'existe plus. Il m'a fallu un très long travail d'expérience renouvelée, encore et encore et encore et encore, pour commencer à trouver des mots qui me permettent de décrire ce que vous évoquez, la nature vibratoire de cette réalité, l'énergie qui traverse ce monde qui nous entoure, cette énergie d'harmonie que certains qualifient d'amour. D'ailleurs, j'ai ressenti des états d'amour d'une puissance extatique absolument faramineuse, qui sont à des années-lumière de l'amour que je peux ressentir pour ma fille, par exemple. Et ça, c'est ce que rapportent également beaucoup d'expérienceurs qui ont vécu des expériences de mort imminente, où ils ont l'impression d'entrer dans une lumière aimante. Alors, c'est le mot qu'on emploie, amour, aimant, ça paraît presque un peu tartignol, même un peu cliché, mais je peux vous assurer que quand vous êtes dans cette dimension-là, dans cette harmonie totale, qui est une des dimensions de notre conscience, bah on peine à se dire mais comment je vais raconter ça, comment est-ce que je peux qualifier ça, quelle image je peux trouver pour essayer d'approcher de cette réalité indicible que j'ai pénétrée. Et c'est ça le problème en fait, c'est que on est tellement habitué à traiter et enfin je veux dire l'ensemble de notre appareil cognitif n'est pas outillé pour décrire ces états de conscience altérés, pour décrire ces dimensions de la conscience. Donc, je vais utiliser, moi, certains mots pour décrire une expérience extatique qui vont être peut-être un peu différents des mots que vont utiliser une autre personne. Et puis, ces réalités-là, elles prennent aussi, comment dirais-je, le visage de votre banque de données. Vous savez, si vous emmenez 10 personnes à Venise, mettons un papou, un suédois, un américain, un belge, un français ou un indien d'Amazonie, vous allez les emmener à Venise, vous allez leur faire faire la même visite de la ville et vous allez les interroger au retour, ils vont vous décrire chacun une ville différente. Pourtant, ils sont allés dans la même ville, mais ils ont des références culturelles et visuelles qui vont être différentes en fonction de leur culture et de leur histoire. Donc, ils vont utiliser cette banque visuelle et cette banque culturelle à leur disposition pour décrire ce qu'ils ont vu qu'ils ne connaissaient pas, cette ville de Venise. Mais ça ne veut pas dire que la ville de Venise n'existe pas, parce qu'ils en parlent de façon différente. Ça veut dire qu'ils ont chacun un appareil cognitif différent qui va leur donner à voir quelque chose de différent, qui va leur faire porter l'attention sur des éléments très différents les uns des autres. Donc ce monde spirituel, il est décrit dans plein de traditions différentes, de l'Inde au chamanisme, en passant par les différentes grandes traditions religieuses de notre humanité. Mais pour moi, ces divergences, elles marquent juste des divergences culturelles, pas des divergences de fond. Parce que quand vous allez dans la source des différents enseignements spirituels, vous apercevez que la chose est identique. On parle de lumière, on parle d'amour, on parle d'harmonie, on parle de ce lien qui nous unit tous, on parle de cette porosité qu'ont nos âmes les unes avec les autres. Nous, actuellement, nous vivons dans un monde dont on a l'impression d'être séparés les uns des autres. Effectivement, nos corps nous séparent les uns des autres, à moins de se toucher, on est séparés les uns des autres, on est séparés de cette nature, on est séparés de notre environnement. Et pourtant, à un niveau plus fondamental, au niveau subtil, spirituel, tout est interconnecté. Et ça encore, ce n'est pas une sorte de profession de foi un peu New Age, c'est vraiment une réalité qui est mise en évidence. On parlait de physique quantique tout à l'heure, c'est le fondement de la physique quantique, l'interconnexion de tous les constituants de cet univers. Et ça, on peut en faire l'expérience. Mais voilà, vous me demandez avec beaucoup de justesse d'essayer de décrire ça, c'est extrêmement difficile de le décrire. J'invite ceux qui s'est intéressés à essayer de voir comment j'ai pu laborieusement mettre ça en évidence à travers les pages de mon livre, mais c'est un exercice extrêmement compliqué et difficile.
Acabou, boa sorte, não tenho o que dizer, são só palavras, e o que eu sinto não mudará, tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz, tudo que quer de mim. Way it's over. Good luck. I have nothing left to say. It's only words and what I feel won't change. Tudo que quer me dar. Everything you want to give me. It's too much. It's heavy. Tudo que quer no peace. All you want from me is real.
Merci beaucoup, mais peut-être que c'est encore mieux comme ça. C'est une espèce d'invitation à essayer soi-même peut-être de faire l'expérience. Enfin, je prends ça comme ça. Alors, vous citiez le mot d'amour. C'est un livre qui est traversé de tendresse et d'amour. Déjà, l'amour de partager tout ça avec cette grâce et cette sensibilité et cette exigence aussi. La tendresse dont on est témoin vis-à-vis de votre fille. Vous dites aussi à quel point l'amour peut permettre des expériences aussi de perception extra...
Sensorielle.
Voilà. Qu'est-ce que cela vous inspire?
Je voudrais rebondir sur notre dernier échange. Vous avez dit faire l'expérience, et ça c'est très juste. Je pense que la réflexion sur la mort, sur la conscience, sur les dimensions infinies de la réalité, dès lors qu'elle reste uniquement intellectuelle et mentale, comme c'était mon cas au début de mon enquête en tant que journaliste, elle reste très limitée. C'est un peu comme si vous me demandiez de vous décrire ce que j'éprouve pour la femme qui partage ma vie. Je vais pouvoir écrire peut-être un beau livre là-dessus, je vais pouvoir peut-être vous dire des belles phrases, etc. Mais si vous-même n'avez jamais connu l'amour, ça ne vous parlera pas. Ou ça vous parlera jusqu'à une certaine limite. Il faut en faire l'expérience soi-même. Il faut tomber amoureux. Et dans mon cas, ce que j'invite à faire, c'est... notre âme, elle est là maintenant. Ce n'est pas quelque chose qui va se réveiller ou qui va apparaître au moment de notre mort. Elle est là maintenant, dans notre corps, maintenant. Et elle s'exprime. Elle s'exprime à travers notre inconscient, à travers nos intuitions, à travers nos rêves parfois, à travers des sentiments qu'on n'arrive pas à comprendre, qui nous attire vers une personne, qui nous attire vers un pays, vers une profession, ou au contraire qui nous repousse de certaines circonstances et de certaines personnes, notre âme, elle est là en permanence. Et on peut cultiver un accès plus lucide et plus conscient. C'est ce que proposent différentes traditions spirituelles, et c'est ce que propose notamment la méditation. Moi, j'ai été frappé de découvrir que les recherches scientifiques qui sont faites aujourd'hui sur la méditation montrent précisément que la méditation a un effet exactement identique à celui qu'ont les substances qui sont utilisées par les chamans en Amazonie pour induire des états de conscience modifiés très puissants. Sauf que la substance en Amazonie va avoir un effet qui va durer 4-5 heures, qui va être extrêmement intense, extrêmement déstabilisant, et qui vous ramène au point de départ une fois que l'effet est dissipé. En revanche, la méditation, elle, développe de façon pérenne des circuits dans votre cerveau qui rendent cette expérience beaucoup plus stable. Et aujourd'hui, ça fait des années que je ne suis pas reparti en Amazonie, j'en éprouve plus forcément le besoin, parce qu'aujourd'hui, il suffit que je m'assoie sur mon coussin et que je me mette en méditation pour retrouver à certains moments cet état de profonde résonance avec mon âme. Je suis dans un moment de présent intense, il se passe des choses assez extraordinaires dont je fais part à certains moments dans le livre. Et voilà une technique, mais il en existe plein d'autres. Ce qui est important, c'est que ça s'apprend. On vit dans une société qui est assez fainéante et qui est assez dans une sorte de posture un peu de pensée magique en fait vis-à-vis de tout ça. On se dit, si la vie après la mort est une réalité, je vais faire un week-end de développement personnel et puis je vais le rencontrer. Non, ça ne va pas se passer si rapidement. Ça n'est que dans une discipline, une pratique qui s'installe sur des mois, voire des années, que l'on va pouvoir commencer à retrouver son âme, à rencontrer son âme. Et à rencontrer cette dimension spirituelle qui peut devenir une source d'inspiration, de connaissance, de paix intérieure profonde. Mais pour ça, il faut faire quelques efforts, en fait. Il faut sortir de sa zone de confort. C'est un espèce de postulat de psychologie, mais c'est étayé neurologiquement parlant. C'est-à-dire que notre cerveau est construit pour fabriquer une zone de confort. Notre cerveau a horreur de l'incertitude. Notre cerveau a horreur de l'inconnu. Donc il va passer son temps à construire une carapace cognitive, une carapace psychologique autour de nous, pour nous dire, voilà, dans cette carapace, t'es en sécurité, tout va bien. Parce que notre cerveau, en fait, c'est un outil adaptatif qui a été développé dans un monde qui, aujourd'hui, est plutôt stable, mais qui, il y a encore quelques dizaines de milliers d'années, était beaucoup plus dangereux qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc il fallait effectivement anticiper les dangers à venir. Donc notre cerveau, en fait, c'est un petit gardien extrêmement paranoïaque. Donc pour réaccéder à son âme, pour réaccéder à ces dimensions beaucoup plus subtiles, il faut calmer ce gardien paranoïaque. Il ne faut pas le faire disparaître parce qu'on en a besoin pour vivre au quotidien. Notre ego, c'est quand même quelque chose d'extrêmement utile pour faire de nous des gens et des personnes stables. Mais il faut arrêter de lui donner une importance capitale. Il faut créer des petits moments où justement on va pouvoir le mettre un peu en sommeil. Plein de techniques psychocorporelles, utilisées en psychologie ou la méditation par exemple, permettent justement cette baisse de prééminence de l'activité de notre cerveau au quotidien et vraiment nous redonne accès à des dimensions subtiles. Pour moi, la méditation, c'est vraiment pas un outil de bien-être anti-stress. La méditation, c'est vraiment la porte d'entrée du chemin spirituel. La méditation, c'est par essence du spirituel. Aujourd'hui, on en a fait effectivement un outil anti-stress. C'est un effet secondaire, l'anti-stress. Mais si on pratique la méditation en disant « je vais le faire ça pour être moins stressé », assez rapidement, on va arriver à des moments de frustration et peut-être même des moments de déconvenue. En revanche, si on pratique la méditation sans aucune attente, juste pour se rencontrer soi-même, on va se rencontrer. Et c'est assez extraordinaire.
Another summer day has come and gone away in Paris and Rome, but I want to go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. I want to go home. Oh, I miss you. Keeping all the letters that I wrote to you, each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat,
deserve more than that.
Merci Stéphane Alix. Il y a aussi la curiosité, le désir, l'élan. Vous êtes un grand explorateur, un aventurier, en fait courageux aussi, parce qu'il faut le faire quand même, d'aller dans la jungle pendant au moins un mois, un moment avec une plante aussi. Il faut de l'audace. Et cette question aussi de l'exploration des seuils et des frontières, est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous ?
Oui, ça a été toute ma vie, ça a été important. J'avais qu'une espèce d'élan et d'appel irrépressible à franchir des frontières. Je l'ai fait très concrètement et très physiquement dès l'âge de 19 ans en rentrant clandestinement en Afghanistan avec des combattants afghans. Mais toute ma vie, ça a été ça. Vous savez, nos certitudes ne sont pas la réalité. Nos certitudes sont des constructions qu'on élabore pour se sentir confortable et pour se sentir pas en danger. Moi, j'aime me mettre en danger. Parce que c'est en se mettant en danger, en se confrontant à l'inconnu, qu'on découvre des plus grandes dimensions de soi-même et de la réalité. Il n'y a que comme ça. Et pour savoir ce qui se passe dans un pays interdit, il faut passer cette frontière. Et l'Afghanistan, en 1988, était une zone interdite parce que les Soviétiques occupaient le pays, les Afghans menaient une résistance acharnée. Il était impossible de rentrer dans le pays sans rentrer clandestinement. Donc je suis entré clandestinement et j'ai passé des mois dans le maquis et j'ai fait là-bas ma première expérience de journaliste et de reporter. Et ça a été pour moi une expérience marquante à plus d'un titre. Parce qu'effectivement, souvent, et je l'ai observé après dans ma vie, on a tendance à se dire « je ne vais pas prendre cette décision parce que je voudrais avoir tous les éléments avant de prendre cette décision ». Je voudrais tout connaître avant de prendre ces décisions. Sauf qu'à vouloir être trop prudent, parfois on devient immobile et on ne fait plus rien. Et mon frère Thomas, qui est décédé en Afghanistan en 2001 et qui a été vraiment à l'origine de mon questionnement sur ces sujets-là, m'avait écrit quelques années auparavant. Lui, il était à ce moment-là en train de voyager dans le sud de l'Inde. Moi, j'étais dans le nord, j'étais à Dharamsala. Et il m'avait envoyé un mail en me disant... Il était en pleine quête existentielle. Et il me disait, mais toi, tu as l'air de t'en sortir, tu es journaliste, tu travailles, tu gagnes ta vie. Comment est-ce que tu sais que tes choix sont justes quand tu fais des choix? Et je me dis, oh là là, mon frère me pose une question ardue, il faut que je me concentre pour lui faire une réponse un peu correcte. Et en plongeant en moi, en fait, je me suis aperçu que je n'avais pas les réponses. Je ne sais pas si mes choix sont justes ou pas, mais je me lance. Et parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Mais l'échec est aussi, c'est une lapalissade de dire ça, mais l'échec est aussi enseignant, et voire même plus parfois que la réussite. Et voilà, et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, j'ai aucune idée parfois, quand je me lance dans quelque chose, si c'est quelque chose de juste ou pas, mais je me lance. Et dans l'action, en fait, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a de la vie, il y a de l'énergie. Et ça apporte des réponses, ça amène autre part, à un endroit où on ne soupçonnait pas. Et je pense aujourd'hui que notre monde, il souffre de cette ultra-confiance dans les certitudes qu'il a établies. Que ce soit au niveau politique, au niveau social, au niveau sociétal. On se bat tous pour défendre les certitudes qu'on a. Et moi, ce que j'ai découvert au contact de scientifiques à travers le monde entier, c'est que ce sont eux qui nous disent « Mais attendez, nos certitudes, elles tiennent sur rien. On n'a pas de preuve que la conscience est liée au cerveau. On n'a pas de preuve qu'on est seul dans l'univers. On ne connaît pas la réalité. On ne sait pas pourquoi la réalité est ce qu'elle est. Toutes les grandes questions philosophiques qui sont primordiales, on n'a aucune réponse. Donc, ayez un peu et ayons un peu de modestie par rapport à ces questions-là. » Et moi, c'est la grande modestie d'un grand nombre de scientifiques de très haut vol qui m'a convaincu que toutes les questions sont possibles. Et que la vie après la mort n'est pas une question qui peut être reléguée uniquement au registre du religieux. Je le répète, je l'ai dit au début de notre entretien, beaucoup de scientifiques aujourd'hui, au regard des faits et au regard des expériences qu'ils ont menées, en arrivent à la conclusion que notre conscience, elle est immortelle. Ça n'est pas une certitude indéboulonnable, c'est l'hypothèse la plus solide qui permet d'expliquer les faits incompréhensibles que l'on observe autrement.
Just your chambers, just your love, and my mother's sons, and my own vineyard, and my soul. Just your flock, just your companions, just your kids. Just your cheeks. Just your your neck, just your couch and my perfume and my beloved and my breasts and my beloved and my love, just your eyes and my beloved.
Après cet éveil ou ces éveils que vous avez connus, comment est-ce que vous faites le lien avec la vie de tous les jours ?
C'est une grande question. Déjà, je n'ai pas vécu d'éveil. Si on se rapporte à la définition que donnent les traditions spirituelles, j'ai vécu des expériences d'éveil, ce qu'on peut appeler ça. C'est-à-dire des expériences de pénétration dans une dimension beaucoup plus colossale de la conscience qui m'ont donné à voir... que je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ce corps que j'occupe, que je suis beaucoup plus que ça. Mais comme vous, vous êtes beaucoup plus que le corps que vous occupez, comme l'ensemble des gens qui nous écoutent sont beaucoup plus que le masque qu'ils voient dans la glace le matin. Et effectivement, après des expériences comme ça et des expériences extrêmement intenses que j'ai pu vivre en Amazonie, parfois le retour dans la réalité extrêmement tangible de nos sociétés où il faut travailler, gagner sa vie, où on est confronté parfois à beaucoup d'absurdités. C'est difficile, c'est compliqué. Mais on est là pour une bonne raison. On n'est pas là pour mourir, en fait. On est là pour vivre cette expérience. Le but de la vie, c'est pas de très très vite mourir pour retourner dans la lumière. Le but de la vie, c'est, je sais pas ce qu'il est d'ailleurs, mais il est très nécessairement et très logiquement dans ce que l'on va expérimenter ici. Donc, la réponse que j'ai apportée à votre question aujourd'hui, c'est que ces expériences d'éveil, ces expériences extatiques très puissantes que j'ai vécues, étaient temporaires. Et je ne cultivais pas par ailleurs de discipline ou de pratique qui me permettent de stabiliser ces expériences. Donc, j'étais avec mon cerveau névrosé de français habituel. Je partais en Amazonie, je vivais des expériences extrêmement intenses qui me connectait à la lumière, qui me connectait à des dimensions profondes de la réalité. Et puis je revenais avec le même cerveau de névrosé en France. Et aujourd'hui, depuis plusieurs années maintenant, je pratique quotidiennement la méditation et j'en vois les bénéfices au quotidien. Les bénéfices dans le sens où cette expérience d'éveil, elle n'est pas aussi intense que ce que j'ai vécu en Amazonie, mais elle est présente de manière subtile, de manière apaisée en moi. C'est-à-dire que j'ai plus besoin de partir à l'autre bout du monde pour rencontrer Dieu, en fait. Parce que Dieu, il est en vous, il est en moi. Cette part divine, elle est là tout autour de nous. Et je pense que c'est par la discipline d'une pratique spirituelle que l'on peut entretenir cette relation au quotidien et permettre justement une traversée de l'existence et de ses aléas et de ses injustices et ses difficultés parfois avec beaucoup plus de distanciation. Je ne suis pas désincarné, je ne suis pas dans le déni de la réalité. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans en tant que reporter de guerre, donc je sais que ce monde est un monde extrêmement dur et violent. Mais la pratique de la méditation me permet, une fois par jour ou parfois 2 fois par jour, quand l'appel est vraiment fort, de revenir dans cet instant présent, de revenir dans cet espace de l'âme, dans cet espace spirituel, où je retrouve une forme de reconnexion. Un peu comme si j'étais un enfant abandonné. On est tous des enfants abandonnés. Ben, la méditation me permet de revenir dans les bras de ma mère pendant 1 heure, chaque jour. Ça permet de passer les 23 heures restantes seul dans ce monde difficile.
Est-ce que vous avez envie de faire une petite lecture ?
Avec grand plaisir. Alors je vais vous lire le début du livre, parce que c'est vraiment un texte et un livre que j'adresse à ma fille, à qui je voulais partager, à qui j'ai déjà partagé toutes ces enquêtes. Tu te tiens debout, en silence, devant le cercueil de bois clair, ma fille. Dans ton regard interrogatif, je devine un abîme de perplexité. Que comprend-on de la mort à 3 ans et demi ? Tu perçois la souffrance autour de toi, ce désarroi discret, les visages figés dans la stupeur, les yeux errent dans le vide, les corps sont hésitants, gauches. On te parle par moments, on veut te rassurer d'un geste tendre et maladroit, ou par un mot, des voix familières dans lesquelles tu sens pourtant des inflexions inhabituelles, de l'émotion, un petit quelque chose d'incompréhensible, presque menaçant car inconnu de toi. Ma fille, tu es seule et impassible au milieu des grandes personnes dont, pour la première fois de ta vie, tu ne parviens pas à cerner les intentions. C'est aussi rassurant qu'un sac de grenades dégoupillé. N'osant ouvrir la bouche, tu observes les adultes, marqués d'une blessure invisible, des tsunamis contenus. La mort vient d'entrer dans ta vie. Là, c'est la scène du jour où j'ai ramené le cercueil de mon frère Thomas d'Afghanistan. On est en avril 2001. Ma fille, Luna, avait 3 ans et demi à l'époque. Et il m'est apparu comme une évidence, dès ses premiers instants, de ne rien lui cacher, de l'associer à la réalité de ce qui se passait. Et à partir de ce moment-là, on a toujours pu échanger, on a toujours pu parler, elle a toujours pu exprimer ses peurs, ses émotions, notamment quelques années après la mort de son oncle, où elle avait l'impression que son visage commençait à disparaître de sa mémoire, ça l'avait beaucoup affectée. Et de rendre la mort non pas morbide, non pas dure et tragique, mais en faire un sujet de conversation un peu dépassionné, en ayant quand même la possibilité d'exprimer ses émotions, j'ai vu combien, au fil des années, aujourd'hui ma fille est une adulte très épanouie, combien ça a pu la rendre beaucoup plus en capacité d'accueillir la mort dès lors qu'elle se présente maintenant. Et c'est ce message, et c'est pour ça que ce livre s'adresse à elle, c'est ce message que j'ai voulu partager. Quand on parle de la mort, quand on regarde ce qui nous fait peur dans les yeux, la peur diminue et c'est de l'apaisement qu'on trouve.
Passer de la peur à l'amour.
Exactement.
Axel Thierry recevait Stéphane Alix qui vient d'écrire « La mort n'existe pas », une réalisation avec les choix musicaux de l'écrivain. Et c'est bien sûr sur OVIO dès ce soir.
Give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get it back to the kids who the hell cares. One less hungry mouth on the welfare. First ship him, don't let him deal with brothers. Give him guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. 2 shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of 2 distant strangers. And that's how it's supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me?
Retrouvez Par où y dire tous les jours de la semaine entre 22 et 23 heures.
Oui.
Oui, oui.
La première. Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.